Faisons une pause un instant et je vous encourage de prier pour la personne à côté de vous. Alors que nous faisons cette pause et qu'on lui demande de vraiment, vraiment nous parler à chacun de nos cœurs. Et je demande cela, Seigneur, pour chacun d'entre nous et pour moi-même. J'ai peut-être passé du temps à réfléchir là-dessus, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses que je peux entendre et j'ai besoin de t'entendre, Seigneur. Alors, nous nous élevons les uns les autres devant toi et nous te disons d'être Dieu au milieu de nous ce matin, de parler à nos cœurs, de préparer nos cœurs pour qu'on entende ce que nous avons besoin d'entendre. Peut-être juste un mot, juste une idée, peut-être juste autre chose. Mais qu'on puisse dire, Seigneur, je reçois dans la foi. Je reçois, nous recevons et nous voulons entendre. Et merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Et tout le monde répond Amen. On a commencé à regarder ce que ça voulait dire de vraiment suivre Jésus. Si vous vous rappelez, alors que nous avons noté la semaine dernière, il y a plein de fois dans les Écritures où Jésus appelle les gens en leur disant « Suis-moi, suis-moi ». Et j'oserais dire, si j'osais, je dirais que je pense que c'est l'Esprit. Quand nous lisons cela, quand nous regardons à Jésus, il n'y a pas une seule fois où j'ai vu qu'il disait « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Suis-moi ». Même quand il a besoin d'être ferme avec nous, il est toujours gentil en disant, bienveillant, en disant, allez, viens avec moi, suis-moi. D'une manière tendre et un cœur intense pour nous, plein d'amour, il nous dit, viens avec moi, suis-moi, tu ne regretteras jamais. Et je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous pouvez dire ce matin, Amen, j'ai expérimenté cela. On veut grandir dans cette idée, en continuant aujourd'hui et encore dans deux semaines, de savoir ce que ça veut vraiment dire de suivre Jésus. La dernière fois, on a un peu regardé une définition de ce que ça veut dire le suivre. On a parlé d'être sur la même route que lui. Quand on est sur la même route que quelqu'un et qu'on veut être sur cette route avec lui, qui c'est qui suit ? Qui suis-je ? C'est vous ou l'autre personne ? Vous abandonnez votre droit d'aller où vous voulez aller, mais vous rejoignez cette personne sur sa route. Vous allez sur la même route avec cette personne, en apprenant de lui, en l'imitant, on parle bien de Jésus, en imitant Jésus à cause de sa vie. Et si on fait ça, il va travailler en nous. Ce n'est pas nous qui réussissons à faire des choses nous-mêmes, à faire des modifications ou quoi. C'est sa vie en nous qui fait des changements. Et avec un peu de chance, ça produit le fait qu'on commence à lui ressembler de plus en plus. Ça multiplie également sa présence et sa vie dans d'autres personnes, en les aidant à le rencontrer vraiment et à le suivre. Tout est à propos de lui, pas à propos de nous. Les premières églises, les premiers pères de l'Église croyaient vraiment que c'était la raison pour notre raison d'être, de devenir plus en plus comme lui. Les mots que Paul a écrits aux Romains, il a dit, quel est le désir du disciple ? De devenir de plus en plus comme lui. Qu'on puisse ressembler à Jésus. Et ce serait bien qu'on se rencontre cette semaine et qu'on se dise entre nous, tiens, tu ressembles de plus en plus à Jésus. Ce que tu viens de faire là, c'était vraiment ce que Jésus aurait fait. Merci. Merci d'avoir laissé Jésus travailler en toi. Ce genre de choses, ce serait bien qu'elles ressortent. Parce qu'on est une communauté, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Combien d'entre vous ont besoin d'encouragement ? Non, personne. Ah si, quand même, un petit peu. Alors c'est bon, au revoir, merci. N'avons-nous tous pas besoin d'encouragement ? À chaque instant, chaque jour, c'est précieux. Alors, le terme « imitatio Christi », qui veut dire... Vous savez peut-être, mais... Dans votre langue, il y a un livre ou quelque chose qui parle de cela. Et il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus, et leur passion, leur inspiration, c'était d'imiter Jésus. Beaucoup l'ont vu, mais il faut que ça se voit, quand on imite Christ, il faut que ça se voit par le Jésus qui vit en nous et qui donne à travers nous. Et on a remarqué des résultats de ce qui s'est passé quand les gens commençaient à imiter Christ. Le premier résultat, c'était quoi ? Vous avez dit que vous étiez des étudiants, mais il y a bien plein d'entre vous qui n'étaient pas là la semaine dernière. Alors, ceux qui étaient là, aidez les autres, c'est les autres qui sont ignorants, à apprendre. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand on imite Christ, aventure, qui aime l'aventure ? Quand on commence à suivre Jésus et qu'on commence à lire les Écritures, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à l'Église primitive ? Et Jésus était le même hier, aujourd'hui et demain, il ne change pas. Et quand on commence à se dire, waouh, si vraiment c'est sérieux et que je commence vraiment à le suivre, je vais vraiment m'embarquer dans une aventure. Des choses incroyables vont se passer. Des choses dont je n'ai pas la moindre idée. Mais c'est sa volonté et c'est ce que je veux qu'il fasse à travers moi. Vous êtes prêts ? Qui veut une aventure ? Dieu vous a vu lever la main, hein ? Attention. Il va vous tenir... Il va s'en rappeler. Il y a des choses incroyables qui se passent quand on le lui. On ne le sert pas pour avoir des récompenses, mais il est tellement extravagant, tellement incroyable qu'il nous donne des récompenses. Il déverse des récompenses dans nos vies quand nous le suivons. Il veut que vous soyez et vous receviez des bénédictions et que vous les déversiez sur des autres. Il adore cela. Il aime cela. Et il y aura encore des récompenses quand nous serons face à face avec lui, si on est fidèle. C'est vraiment génial. Il y a de la joie, en plus, pas seulement dans cette vie, mais dans la vie à venir, alors que nous rentrons dans sa joie avec lui. Vous imaginez un jour ? Imaginez juste quelque chose. C'est juste pour citer quelque chose qui découle d'imiter Jésus. L'aventure, la joie et son cœur. Sa vie, on n'a pas la vie, mais la vie en abondance. Une vie abondante. On va revenir là-dessus dans un instant. Mais alors que nous avons vu la semaine dernière également, il y a un coût à tout cela, un coût à être disciple de Jésus, c'est-à-dire à apprendre à suivre Jésus, à apprendre à devenir plus comme lui, à apprendre à le laisser agir en nous, il y a un coût. Combien d'entre vous aimez bien payer le prix ? Combien d'entre vous aimez les choses chères ? Non ? Personne n'aime ça. Bien sûr. C'est intéressant. Ces mots que Jésus a dit à ses disciples, on va les revoir. Jésus a dit, si quelqu'un souhaite me suivre, et chacun va dire, oui, moi j'ai envie de te suivre, moi j'ai envie, oui, ça me plaît. Ok, écoutez la condition. Il doit d'abord se nier lui-même. En fait, c'est pour se dire, en fait, non, c'est pas à propos de moi. Il y a bien plus dans la vie. C'est à propos de lui. Et parce qu'on va se nier nous-mêmes, ça nous porte à nous charger de notre croix pour ensuite le suivre. Porter un fardeau avec joie. La croix, ça veut simplement dire la mort. Vous êtes encouragé là, hein ? C'est super. Et ensuite, quand vous êtes à ce point-là, quand vous avez abandonné votre ancienne identité, et que vous avez porté la croix de la mort, alors vous êtes libre de le suivre. Oh oui, je veux le suivre, ça va être génial. Ouais, est-ce que tu es mort à toi-même ? Oula ! J'ai besoin d'un peu plus de temps. Et ensuite, on peut vraiment le suivre. Parce qu'on est libéré de nous-mêmes, ce n'est plus à propos de nous. Amen. Mais c'est intéressant quand même que Dieu nous donne un mot d'encouragement. Il dit, tous ceux qui veulent sauver leur vie et ne pas donc nier leur ancienne identité, va juste perdre tout ce qu'ils pensent avoir. Mais regardez, si vous faites quoi ? Si vous perdez votre vie pour lui, vous allez trouver tellement, tellement plus. C'est les deux extrêmes du royaume de Dieu. Pour nous, ces deux extrêmes. Le désir et la mort. Mais perdre la vie, c'est trouver la vie. C.S. Lewis, l'écrivain, a écrit cela de cette manière. Et je suis sûr que vous allez trouver ça super excitant. Je ne veux pas tellement votre temps, votre argent, votre travail. Je ne veux pas un petit peu de ci, un petit peu de ça. Je vous veux vous. Je te veux toi. Dites-le moi. Moi. C'est ça qu'il veut. Je te veux toi. Je ne suis pas venu pour tourmenter ton identité naturelle, mais pour la tuer. Vous êtes encouragé là, hein? Pas aucune demi-mesure ne seront bonnes. Je ne veux pas couper une branche ici, une branche là. Je veux abattre tout l'arbre. OK? Vous avez encore quelques branches à couper, là? Votre arbre de votre ancienne identité est toujours debout? Je veux l'abattre complètement. Déposez toute votre ancienne identité naturelle, tous les désirs que vous pensez innocents et ceux que vous savez méchants. Je veux tout le costume. Tout. Je vous donnerai... Écoutez bien. Et écoutez, laissez ces mots résonner dans votre cœur. Je vous donnerai une nouvelle identité à la place. En fait, je vous donnerai mon identité. Mon désir personnel deviendra votre désir. Votre volonté, ma volonté deviendra la vôtre. Marinez un peu là-dedans. C'est intéressant que l'Église, pas Tikos évidemment, mais que l'Église en général, a rendu le prix d'être disciple très faible. Ils ont réduit ce prix, le prix que ça coûte vraiment d'être un disciple. Le prix qu'on doit payer, apprendre à nier à soi-même, à mourir à soi-même pour suivre Jésus, c'est ça, être un disciple. La plupart des églises ont rendu ça facile. L'Église a inventé la grâce facile, la grâce pas chère, la grâce bon marché. Si vous pensez que la grâce est bon marché, vous vous trompez. Ça produit des disciples qui sont superficiels, peu profonds, dont la foi est superficielle. Est-ce que si vous voulez seulement être un disciple superficiel, vous payez un petit prix, évidemment. Ne pas être des disciples sérieux de Jésus, ça coûte plein de belles choses. Ça coûte une paix qui réside en nous, ça nous coûte, donc ça empêche d'avoir une vie pénétrée par l'amour. Hein? Qui a besoin de ça, finalement? Ça coûte une foi qui voit tout dans la lumière de la souveraineté de Dieu. Et de penser, c'est-à-dire croire qu'il fait toutes choses pour ceux qu'il aime, pour le bien de ceux qu'il aime. Ça coûte aussi cet espoir qui tient bon dans les circonstances les plus décourageantes. Ne pas être un disciple sérieux de Jésus, ça coûte aussi le pouvoir de faire ce qui est bien et de tenir ferme devant les forces du mal. En gros, ça coûte exactement la vie abondante que Jésus est venu nous donner. Des disciples superficiels, hein, dans la foi, ça coûte beaucoup de bonnes choses. Ça empêche d'avoir toutes ces bonnes choses. Il est temps de payer le prix et d'être vraiment des disciples. et l'abondante, la vie abondante qui vient avec. On pourra les découvrir. Mais on va se dire, mais comment est-ce qu'on peut avoir une vie abondante si on paye tous ces prix, ce lourd prix? Mais c'est Jésus qui dit, mais c'est exactement ça l'idée. Quand vous perdez tout ce que vous avez, c'est là que vous recevez tellement plus. Vous recevez tout à propos de moi, plus que vous n'avez jamais pu le rêver. Ça vous parle? Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas cette idée, faites-moi confiance. On commence seulement à expérimenter une vie abondante quand il commence à déverser son esprit dans votre vie parce que vous avez été prêt à vous nier et à mourir à vous-même, à laisser votre ancienne vie derrière vous. Et là, il commence à vous remplir par le pouvoir de son esprit. Il y a des choses qui se passent que vous ne pouvez même pas imaginer. Et alors, à ce moment-là, c'est la vie abondante que vous êtes appelé à vivre. Quand vous le connaissez au milieu des circonstances décourageantes, des problèmes, des temps difficiles, alors vous le connaissez vraiment. Et c'est là que vous ressentez, que vous comprenez toutes les bénédictions de son cœur, la beauté de qui il est vraiment, la proximité, ce que c'est que d'être proche de lui. C'est ce que nous dit Jean 10, 10. La vie en abondance. Mais remarquez quelque chose d'autre ici également. Être disciple, ce n'est pas seulement pour les disciples, les chrétiens super engagés. Combien d'entre vous sont des chrétiens super engagés? Nous avons cette interprétation, cette idée bizarre qu'un chrétien super engagé, un super chrétien, il faut qu'on casse ce mythe. Le disciple de Jésus, ce n'est pas le modèle de luxe ou le super modèle amélioré d'un chrétien. Il se tient ferme, un vrai disciple de Jésus se tient ferme dans les pages du Nouveau Testament, mais c'est seulement le premier niveau. C'est seulement le premier niveau d'être disciple. First levels. C'est seulement le premier niveau d'être disciple, de la transportation vers le royaume de Dieu. Les amis, être un disciple de Jésus, c'est seulement le niveau 1 de suivre Jésus. C'est que le début. C'est pas quand on est déjà un peu bien dedans et qu'on a réussi à atteindre ses objectifs. Non, c'est le début. C'est être un vrai disciple. C'est la première étape. Et je vais peut-être le dire autrement. Un vrai disciple, ce n'est pas être une Ferrari que seulement quelques-uns peuvent conduire. J'aimerais bien conduire une Ferrari un jour, mais au paradis, je suis sûr que je conduirai une Ferrari. Et nous, on pense humblement, on se dit, moi, je suis juste une Renault, mon frère est une Peugeot, mais je ne serai jamais une Ferrari. Je ne serai jamais un super disciple, un super chrétien. On ne sera peut-être jamais des Ferrari. Les amis, les Ferrari, c'est la norme. C'est le standard. C'est la Ferrari, c'est ça le niveau 1 auquel on aspire. Vous comprenez ce que je dis? Oui, je ne peux pas être une Ferrari. Mais en Jésus, tu es une Ferrari. Regarde qui tu es en Jésus. Les amis, le problème, la plupart d'entre nous, c'est qu'on n'a pas ouvert le garage et on n'a pas laissé la Ferrari sortir. Elle est là. En Jésus, la Ferrari est là. Si vous étudiez les Écritures, mais regardez qui vous êtes en Christ, si vous êtes un vrai disciple, la Ferrari, elle est là et vous l'avez enfermée. Laissez-la sortir. Conduisez-la en dehors du garage. Vous n'avez pas vu ma Ferrari garée devant? J'espère que vous la voyez garée en moi. Lisez juste Éphésiens 1 et 2 et regardez qui vous êtes vraiment. Ça va vous remplir, vous dépasser, vous submerger. Alors, si on parle d'un point de vue plus pratique, plus concret, si on veut vraiment être des disciples de Christ, où est-ce qu'on doit regarder? Quel est le modèle? On a un peu de sa vie qui est exposée devant nous dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous pouvez regarder là et vous aurez assez. Et c'est tellement peu par rapport à tout ce qui s'est passé de toute sa vie. Mais vous regardez dans les évangiles et ça va vous submerger. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Qu'est-ce qu'on devine? La première chose qu'on dirait si on regarde la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait régulièrement? Quel était son modèle, sa manière de fonctionner, à part sourire et d'être ferme parfois avec les pharisiens? Et de manger la nourriture délicieuse que Martha et Marie ont fait pour lui. Qu'est-ce qu'on voit comme modèle qui revient? Vous, les Français, vous avez toujours peur de parler au cas où vous donneriez la mauvaise réponse. Hein. Dites quelque chose. N'êtes pas français, dites-le. Attendez que les Français disent quelque chose. Allez, dites-moi. Jésus priait. Ah oui, c'est vrai. Mais regardez pour un instant. Si vous ne vous rappelez de rien d'autre de ce matin, si vous ne repartez avec rien d'autre ce matin, à part le potluck, rappelez-vous de ça au moins. Ceci. On ne parle pas de demander que Jésus demandait des choses, même si Jésus demandait au Père de venir à lui, mais bien sûr, Jésus nous demande de venir à lui. On lui demande plein de choses pour qu'il tende la main vers nous, mais en fait, lui, en tendant la main, il veut nous ramener face à face pour qu'on le regarde dans les yeux. On a étudié le Notre Père ensemble sur une douzaine de semaines cette année. Quelle était la première chose? Au moins la moitié de cette prière, c'était quoi? C'était regarder à lui, regarder au Père, se concentrer sur lui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'était tout à propos de lui, à propos d'une connexion avec Dieu. Jésus savait cela. Et ce qui était une passion pour lui, c'était d'être en communion avec son Père, d'être connecté à son Père. Vous voyez, beaucoup d'entre nous parlent de Dieu, mais nous ne parlons pas vraiment avec Dieu. Pas beaucoup, en tout cas. Et il faut apprécier d'être avec lui. Pas juste parler parfois, mais d'être connecté à lui. Et il nous dit, venez, viens, suis-moi, mais viens. C'est ça la racine qui donne vie à toute vie spirituelle. Jésus était tout le temps en prière, en connexion avec son Père. Jésus remplissait régulièrement sa Ferrari avec de l'essence. Il ne pouvait pas rouler avec un réservoir vide. Hein. Rappelez-vous, il était 100% homme et 100% Dieu. Il était aussi un homme qui était le modèle pour nous. Donc, il remplissait son réservoir avec les encouragements de son Père et la puissance qui vient d'en haut. Vous ne pouvez pas vivre sans cela, les amis. Maintenant, regardez. Jésus a déclaré à propos de sa communion avec le Père. Regardons comment c'était important. En Jean 5, 19. Jésus a dit, le Fils peut faire quoi tout seul? Rien. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il peut seulement faire ce qu'il voit le Père faire. Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il parle de suivre le Père.
By myself, I can do nothing. I judge only as I hear.
En effet, tout comme le Père, en effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement.
Not about his own will. He only does and speaks what he sees and hears from his Father in prayer.
Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé.
Power of the Father, nothing of himself.
Il n'y avait rien de lui-même. Il a perdu sa vie, Jésus. C'était tout qui venait du Père. Il a perdu sa vie pour pouvoir gagner tout. Vous voyez le modèle qu'il nous a donné à cette relation avec son Père. Maintenant, il nous appelle à le suivre lui, parce que lui suit le Père. Donc si on le suit lui, on suit le Père. Vous voyez ? Il a perdu sa vie. Voici la clé, les détails clés. Juste deux minutes, pour que vraiment ça pénètre en vous. Et je vous encourage vraiment de réfléchir là-dessus quand vous aurez un peu plus de temps. Que ça puisse vraiment vous prendre votre cœur. Regardez à son modèle, donc sa manière de fonctionner qui était constante dans tout le Nouveau Testament. Et moi, ça m'a touché encore et encore et encore. Et je n'avais pas vraiment vu ça avant comme ça. Mais dans Luc 5, par exemple, Jésus dit souvent, dites souvent, c'est souvent retiré dans des endroits isolés pour prier, pour qu'il puisse avoir un espace de privatif. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Mais prier. Souvent. Et marquant dans Marc 1, 35, Marc 1, 35, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre. Combien d'entre vous aiment se lever tôt le matin quand il fait sombre ? Vous aimez ça quand vous êtes avec votre oreiller, c'est ça, hein ? Non, mais Jésus s'est levé quand il faisait encore sombre, se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Le contexte, regardez maintenant. On lit un peu avant, c'est juste après un moment où il a guéri des personnes et il a chassé des démons. Il s'est déversé entièrement dans son ministère. Les gens venaient à lui, étaient guéris, le voyaient pour qui il était. Il était complètement vidé. Et après cela, mais remarquez que qu'est-ce qui arrive juste après ça ? C'était avant un moment de où il allait prêcher, où il allait de nouveau faire des prières de guérison, où les autres allaient apprendre. Et maintenant, dans Matthieu 14:13, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un endroit désert. Le contexte, encore une fois, c'était juste après que Jean-Baptiste se soit fait décapiter. C'était qui Jean-Baptiste ? C'était quoi sa relation avec Jean-Baptiste, avec Jésus ? Ils étaient cousins, déjà, d'une part, et Jean-Baptiste, c'est lui qui avait proclamé la venue du Messie en disant, c'est lui, l'agneau de Dieu, Jésus est là. Et Jésus et Jean-Baptiste étaient très proches. Et quand Jean-Baptiste est mort d'une manière si horrible, vous imaginez Jésus, la pointe dans son cœur ? Il a dû se retirer, se reconcentrer, trouver une guérison, une consolation auprès de son Père, remettre tout ça en perspective, remplir son réservoir. Mais vous voyez également que juste après, qu'est-ce qui se passe ? Il nourrit plus de 5000 personnes miraculeusement et d'autres choses. Et si on avance de 10 versets, Matthieu 14, 23, quand il eut renvoyé la foule, plutôt 10 000 personnes avec les femmes et les enfants, quand il eut renvoyé la foule, il monta où ? Sur la montagne, tout seul, à l'écart pour prier. Et le soir venu, il était là seul, après avoir nourri 5000 personnes. Mais si on continue à lire un peu plus tard, c'est juste avant quoi ? On le voit marcher sur l'eau. Et passer du temps avec ses disciples, à les aider à apprendre des choses et plein d'autres choses. Vous voyez cela ? Jésus est allé d'un moment solitaire isolé, d'un moment de prière isolé, à un autre, puis à un autre. Et entre-temps, il accomplissait des choses surnaturelles. On ne peut pas le louper, ça. Je l'ai loupé, mais on ne peut pas passer à côté. C'était toujours entre deux prières. Alors, quelles sont les instructions de Jésus pour nous ? On les connaît. Parce que vous avez étudié et mémorisé tout ce que vous avez étudié pendant 12 semaines, n'est-ce pas ? Il a dit en Matthieu 6, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui voit ce qui est fait dans le secret, il veut te récompensera. Dans un lieu secret à part. Secret, ça ne veut pas dire seulement toi tout seul. Il peut y avoir un groupe de personnes ensemble, dans un endroit privé, à l'écart, isolé, en communion avec lui. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut le faire, dans le secret. Le secret, c'est ça, une prière dans le secret. Regardez la vie publique de Jésus. On prend, par exemple, Luc chapitre 3. Quand tout le monde était baptisé, Jésus a été baptisé également. Quand ça s'est marqué, quand il priait, mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui priait, c'est Jésus, en fait. Il priait quand il était en train d'être baptisé. Alors qu'il était en train de prier, le ciel s'ouvrit. Moi, j'aimerais bien voir cette vidéo hein, quand j'irai au paradis. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe et lui dit, « Tu es mon fils. Je t'aime. » Et je suis vraiment heureux. Jésus a prié, le paradis s'est ouvert, une colombe est descendue et Dieu a prié. Ça, c'est de la prière. Ça, c'est le genre de prière qu'on veut faire. Il ne faut pas se dire, non, c'est pas parce que je ne prie pas là, comme ça que je suis un échec. Mais ça, c'est un modèle. C'est l'objectif. Il faut s'en approcher. Pensez-y. Pour nous, les portes du ciel sont déjà ouvertes. On a déjà la connexion avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous retient ? Dans Luc 9, Luc 9, 28, environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie apparaissant dans la gloire. Il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Une voix, vous imaginez, une voix qui est venue des nuages et qui disait, comme la voix qui venait des nuages et qui disait, c'est mon fils. On ne dirait pas que le père est quand même très fier de son fils en disant, c'est mon fils. C'est mon fils que j'ai choisi, écoutez-le. Jésus prie, ses vêtements sont transfigurés, Moïse arrive, le père parle. Ça, c'est de la prière, c'est du surnaturel qui se passe. C'est pas intéressant de... Donc, ce qu'on voit dans les Écritures, en tout cas, cet événement, est-ce que vous l'avez vu, on vient de le lire, mais est-ce que vous l'avez vu autre part ? Les mots spéciaux de son père, cette affirmation, cet encouragement, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça a lancé son ministère public. Et maintenant, on vient ici. Et en fait, c'était près de la fin de son ministère. Et est-ce que Dieu n'est pas bon quand on a besoin de lui ? Il est avec nous et il nous parle. Il nous donne ce dont nous avons besoin, non ? Quand vous priez, des choses se passent, que vous le voyez ou non. Ne pensez pas le contraire. C'est pas étonnant qu'un des disciples a dit à Jésus, en faisant tout ça, « Seigneur, tu dois nous apprendre à prier. S'il te plaît. On veut cela. » Sa prière était privée et publique, mais ça produisait toujours du pouvoir. Ses disciples l'ont vu et le voulaient, alors ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi dans son lieu de prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié à la Pentecôte, comme ils ont été instruits de le faire, à la Pentecôte, et après 2 ou 3 minutes de prêche après la Pentecôte, 2 ou 3 000 personnes sont venues à Jésus. Et ça, franchement, ça me rend vraiment humble, moi. Si je prêche pendant 30 minutes, combien de personnes vont se convertir? Combien? 30 000 personnes vont se convertir, c'est ça? Si c'est proportionnel, hein. Dieu fait de grandes choses. Et regardez ce qui se passe. Le salut pour beaucoup. Il parle avec, une fois avoir reçu le Saint-Esprit, il parle avec assurance. Ils ont prié en Samarie, un des endroits les plus difficiles d'atteinte. Il y a des miracles, des murs tombent, des milliers de personnes commencent à suivre et à croire en Jésus. Ils prient pour Saül. Alors ça, c'était quelque chose de difficile de prier pour Saül, qu'il est persécuté. Saül devient Paul, et il devient un des plus grands serviteurs de Dieu. Et c'est probable que certains d'entre vous et de nous ne seraient pas là aujourd'hui si Paul n'avait pas fait tout ce qu'il a fait grâce à Dieu. Vous imaginez cette prière alors? Ils ont prié pour Pierre, qui a été miraculeusement libéré de prison. Dieu a juste fait trembler la terre pour que les portes s'ouvrent et que Pierre puisse s'évader facilement. Hein? Rien d'extraordinaire, on pourrait dire, hein, finalement. Les amis, je veux vraiment vous encourager à le suivre. Oui, mais à le suivre dans son lieu secret. De passer du temps avec lui. Soyez avec lui. Parlez-lui. Il adore ça. Il aime ça. Et voici ce que je sais que beaucoup d'entre vous pensez. Ah, mais j'ai pas le temps. Pas comme vous, le pasteur, tout ça. C'est votre. Vous pouvez passer 24 heures par jour dans la semaine à être avec Jésus. Non, c'est pas vrai. Moi aussi, je dois prendre soin de. Je dois prendre soin de ma femme. J'ai très peu de temps pour moi. Mais je veux vraiment vous pousser et vous challenger 5 minutes. Ouais, j'ai pas le temps, je peux pas prier. Combien d'entre vous mangez une pomme, peut-être une pomme par jour ou quelque chose comme ça? Si c'est pas une pomme, c'est une tarte aux pommes ou quelque chose de plus exquis, mais si vous pouvez manger une pomme, vous pouvez parler à votre père pour 5 minutes. Coupez votre poêle et pendant que vous mangez votre pomme, parlez à votre père. Ne me dites pas que vous n'avez pas 5 minutes. Ne rendez pas une pomme plus importante que votre père éternel. Mon challenge pour vous, et le mien, c'est mon challenge pour le mien aussi, mais essayez. Vous serez vraiment stupéfait de voir tout ce qu'il peut faire en vous. Grâce à cela. Et ma prière et mon désir pour vous, c'est que, alors que vous apprenez cela de plus en plus, priez, priez, priez. Vous serez stupéfait des choses surnaturelles que vous verrez entre vos moments de prière. Prions ensemble. Levez-vous avec moi. Alors que nous sommes dans un esprit de prière ensemble, et je veux vraiment vous encourager, alors que Dieu nous a parlé ce matin, a parlé à vos cœurs ce matin, et que vous avez vraiment envie d'expérimenter plus de lui, de vivre plus de choses, et de le suivre, et si c'est votre désir, levez votre main. Juste pour dire, oui, c'est mon désir ce matin. Je veux apprendre plus de lui. Je veux apprendre à le suivre. C'est le désir de mon cœur. Amen.
Amen.
Et une deuxième question qui vient avec tout cela, c'est qui d'entre vous ce matin a le désir de lui donner plus de liberté pour travailler en vous? Et si c'est votre désir? Amen. Seigneur, nous t'appelons ce matin. Alors que tu nous challenges, même par le prophète Jérémie, tu dis, Seigneur, qui nous dit, quand on prie, on appelle, tu réponds. Alors on te demande ce matin, je te demande, pour mes frères et mes sœurs et d'autres qui peuvent être en train de te chercher, de te demander tout ce que cela veut dire, c'est qui c'est Jésus, c'est quoi le besoin de le suivre, je te prie de leur donner des réponses incroyables, des choses grandes et bonnes que tous ces cœurs ne reconnaîtront peut-être pas, mais nous savons. Nous reconnaissons que c'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses. Je demande cela pour mon cœur ce matin. Comment est-ce que je pourrais mieux te suivre? Montre-moi, enseigne-moi. J'ai tellement à apprendre. Et on dit ensemble, tous ensemble, Seigneur, aide-nous. On a tellement à apprendre. Mais merci parce que tu es un Père aimant. Merci parce que toi, Jésus, tu es prêt à venir et à nous être le modèle pour nous. Et prendre le prix de nos péchés sur toi-même pour que nous ayons une vraie communion avec toi. Alors Seigneur, alors que nous mangeons notre pomme cette semaine, aide-nous à penser à toi, à parler avec toi, d'être silencieux devant toi, de mariner un peu dans ces choses. Pour que nous soyons encore plus connectés à toi. Et merci, parce que tu es tellement bon, tu es tellement fidèle. Et les gens de Dieu disent Amen.